Bonjour à tous, bienvenue dans le débat de midi. Je suis ravi de vous accueillir pour le mois d'août. Alors, Paola Poerari a tout laissé en ordre. Bon, il y a une petite tâche. Enfin bref, merci à elle pour avoir tenu ce micro en juillet. Et bon repos si elle nous écoute. En tout cas, le débat de midi, fidèle à sa mission d'explorer les thèmes de notre société, va prendre des risques aujourd'hui en parlant faits divers. Alors, je vous explique. En fait, la semaine dernière, j'étais dans une soirée et quelqu'un vraiment m'a demandé quel était mon fait divers préféré. C'est vrai que ça m'a interloqué car jusqu'à présent, j'étais plutôt sur des questions, c'est quoi ta pizza préférée, ou plus jeune, c'est quoi ton schtroumpf préféré, mais mon fait divers favori, aucune idée. Par contre, tous les convives de la soirée ont pu citer des exemples. Alors nous sommes fans de faits divers, c'est vrai, hein, de Xavier Dupont de Ligonnès en passant par l'affaire Grégory ou Dahmer, hein, les documentaires ou fictions évoquant les affaires mystérieuses où les serial killers rencontrent un succès toujours plus grandissant. Que dire de l'affaire Palmade qui a suscité cette année une couverture médiatique incroyable, hein, tout média confondu, deux fois plus d'articles que par exemple sur Kylian Mbappé pendant la Coupe du Monde. Alors est-ce eh bien l'inquiétude, l'horreur qui nous attire ou au contraire l'extraordinaire et la fréquentation des monstres, le fameux « et dire qu'il habitait à côté de chez moi ». Alors pourquoi une telle passion pour les faits divers, hein? On en discute jusqu'à 13h dans le débat de midi. Vous pouvez eh bien réagir vous aussi via l'appli France Inter en nous laissant des messages et surtout également des notes vocales car vous pouvez bien sûr participer au débat, le débat de midi, l'heure du crime. Enfin bon, il est midi 5, on va dire. En tout cas, on en discute sur France Inter.
Jean-Mathieu Pernin, le débat de midi. Sur France Inter.
Et pour en parler de ces faits divers autour de la belle table hein, du débat de midi, nous recevons Ondine Mio. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes autrice, ancienne journaliste à Libération, spécialisée dans les faits de société et la chronique judiciaire. Vous êtes autrice des livres Les monstres n'existent pas et Le candidat idéal. Également à vos côtés, Franck Hannes. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président et cofondateur de SoPress. Alors SoPress, il y a Society, SoFoot, SoFilm. Hein, on connaît bien vos déclinaisons et en kiosque, on peut trouver eh bien Cold Case, Affaires mystérieuses, Disparition, Butin introuvable, c'est un hors-série hein, disponible dans toutes les librairies. Également Damien Delceni, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef police-justice du Parisien, animateur du podcast Faits divers du Parisien Crime Story, et puis en duplex depuis France Bleu, depuis Toulouse, France Bleu Occitanie, Élise Costa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes plume de parquet pour Slate, créatrice du podcast Fenêtre sur cour et autrice du livre Les nuits que l'on a, les nuits pardon que l'on choisit. Alors forcément, quand on parle faits divers, Franck Hannes, je me tourne vers vous parce que ça m'a rappelé un été forcément ce thème et vous aussi j'imagine. Il y a eu un avant, un après, on peut dire pour le groupe Society avec des magazines consacrés à l'affaire Xavier Dupont Ligonnès entre 300 et 400 000, c'est ça
voilà, numéro 450 000. Même.
450 000 numéros. Vendu, donc c'était deux numéros, c'était une enquête hein, que des journalistes de Society avaient menée. Est-ce que vous avez compris maintenant avec le recul, c'était en 2020, était 2020, donc nous sommes trois ans plus tard, est-ce que vous avez compris le succès et l'intérêt justement du lecteur pour cette affaire?
Ouais, je pense que on l'a traité de manière un peu différente de la façon dont elle avait été traitée avant. Déjà, c'est une affaire qui était beaucoup traitée.
Ouais.
Et tout le monde pensait avoir tout lu sur l'affaire. Et nous, on arrivait avec énormément de choses nouvelles. Donc forcément, ça suscitait un intérêt. Et le bouche à oreille a fait son job très, très vite. Et après, je pense qu'on avait une manière de le traiter qui était un peu différente. Puisqu'on était beaucoup sur l'aspect humain de l'affaire. Et pas le fait que le monstre Xavier Dupont-Ligonnès serait un être humain au fond. Mais bien plus sur le fait que ses deux meilleurs amis, notamment, avaient également été victimes de ce fait divers. Mmh. Et en fait, on était vachement sur le fait que bah, un fait divers fait toujours plus de victimes que les victimes réelles du fait divers. Et donc, ce cercle comme ça, qui était abîmé par l'affaire, je pense que c'est ça qui a beaucoup touché aussi les gens. C'est-à-dire qu'on suivait plus les péripéties, finalement, de ces deux amis, teneurs et rétifs, que de Xavier Dupont-Ligonnès lui-même.
Mmh. Et c'est devenu en effet un énorme succès qu'on a pu trouver dans les kiosques par abonnement. Damien Delceni, c'est vrai qu'aujourd'hui, les faits divers, je le disais, on en voit beaucoup, notamment, on le voit sur les plateformes, il y a énormément de fiction autour. Mais concrètement, le fait divers de tous les jours, celui que vous traitez aussi dans Le Parisien, est-ce que vous trouvez qu'on s'y intéresse davantage ou ça a toujours été le cas, finalement?
Alors, ça a probablement toujours été le cas, mais c'est vrai qu'il a pris une place un peu différente au cours de ces dernières années. Je pense surtout par le nombre en fait de médias qui s'y sont intéressés pendant très longtemps. Le fait divers, il y a des dizaines et des dizaines d'années, était une espèce de rubrique un peu cachée dans les quotidiens, qui était d'ailleurs un peu dépréciée par rapport au reste. Et peu à peu, le fait divers, il a grignoté dans les pages des journaux, que ce soit la presse écrite, la radio, la télé. Il s'est fait une place. Et effectivement, aujourd'hui, il occupe une place prépondérante. Alors au Parisien, ça a été toujours un marqueur fort du journal. Donc on a toujours eu cette culture du fait divers, mais c'est vrai qu'il est plus présent, il est plus massif, il n'est pas toujours, je trouve, très bien traité, parce que forcément, comme il y a beaucoup de monde, on finit d'abord par raconter un peu toujours tous la même chose, et parfois de manière un peu cheap, je dirais. Mais en tout cas, il intéresse plus, mais tous les faits divers sont pas... Enfin, moi, je classifie toujours les faits divers, et je pense que l'affaire du pont de Ligonnès, pourquoi elle fonctionne et pourquoi elle fonctionne toujours aujourd'hui, c'est parce qu'elle a tous les ingrédients, en fait, du fait divers qui intéresse, bien au-delà du fan classique qui lit les pages de faits divers tous les jours. L'affaire du pont de Ligonnès, elle dépasse complètement ce cadre-là, parce que la définition d'un bon fait divers, c'est une histoire extraordinaire qui arrive à des gens très ordinaires. Et c'est comme ça qu'il y a un phénomène d'identification. Vous disiez tout à l'heure, quand je pense que c'est mon voisin qui l'a fait, oui. Ça, le fait divers, c'est ça. Ça fonctionne quand on peut s'identifier à l'histoire, parce qu'elle peut peut-être nous arriver, ou elle peut peut-être arriver à des gens qu'on connaît. Le fait divers, totalement violent, purement glauque, il ne fonctionne pas. Enfin, il fonctionne sur un trait de temps qui est très bref, en fait. Il fonctionne sur la sidération, sur l'horreur, etc. Mais ça ne dure pas plusieurs jours. Le fait divers qui arrive, l'affaire Grégory qui dure depuis 40 ans, elle dure parce qu'on a dépassé depuis longtemps le problème d'un meurtre d'enfant. C'est une histoire familiale, c'est un lieu, c'est une ambiance, c'est toute une époque. Et effectivement, ça dépasse le cadre du crime comme l'affaire du pont de Ligonnès.
Alors, Élise Costa, vous êtes donc en duplex depuis Toulouse. Pour vous, c'est ça aussi notre fascination aujourd'hui pour le fait divers, ou même qu'on a toujours eu, c'est-à-dire en gros, ça pourrait nous arriver et qu'on est aussi fasciné par ce fait divers à côté duquel nous sommes passés?
Bah, en fait, je pense que ça dépend aussi beaucoup du thème qui va être abordé dans le fait divers. C'est-à-dire que, par exemple, effectivement, l'affaire Xavier Dupont-Ligonnès, elle a tellement, non seulement elle a le mystère, mais elle a aussi la catégorie socio-professionnelle, j'ai envie de dire, dans laquelle le crime s'est déroulé. Enfin, à chaque affaire, à chaque grosse affaire, il va y avoir en tout cas un élément qui va faire que les gens vont se passionner pour telle ou telle affaire. C'est pareil aussi avec l'affaire Jacques Viguier, qui justement est arrivée à Toulouse, où là aussi on avait...
C'était quoi l'affaire Jacques Viguier?
C'est l'histoire d'un professeur de droit accusé d'avoir tué sa femme Suzy.
D'accord.
Et qui a été acquitté en appel à Albi. Et donc en fait dans cette affaire-là, il y avait aussi, c'est pareil, le milieu social. C'est un professeur de droit, donc on peut imaginer, enfin en tout cas l'imaginaire peut se développer et se dire que si quelqu'un sait faire disparaître un corps, c'est bien lui. Enfin, que ce soit vrai ou non, je veux dire, mais en tout cas, dès lors qu'il y a un mystère, c'est sûr que ça va entraîner un débat et les gens vont pouvoir en parler entre eux en se donnant les hypothèses possibles, etc., etc.
Alors, Ondine Mio, vous-même, c'est vrai qu'il y a un de vos livres qui s'appelle « Les monstres n'existent pas » et c'est cette fréquentation des monstres aussi dont on parle quand on évoque les faits divers. Pour vous, il y a aussi ça, c'est pas, je dirais pas, une fascination envers ces personnes-là, mais tout de même de se dire qu'on peut les approcher, les observer.
Alors, effectivement, Damien l'évoquait, il y a dans cette attraction vers le fait divers ce côté de se dire « Ah, cette personne me ressemble, mais quand même, finalement, moi, mes petites transgressions, mes petits arrangements avec la morale, c'est pas si grave. » C'est-à-dire une identification et un phénomène de réassurance sur soi-même. Ça, c'est le phénomène qu'on prend pour frissonner, le fait divers, pour frissonner et pour se rassurer. Voilà. Bon, moi, je vous avoue que c'est pas ce que j'essaye de faire. Bien quand sûr. Je fais un livre, Les monstres n'existent pas. Ce choix de titre, c'est plutôt justement pour montrer voilà que le titre, le monstre, qui a eu lieu sur l'affaire que je raconte dans ce livre, c'était les titres, c'était le monstre, à propos d'une femme infanticide. pour se dire c'est très loin de nous et quand même nous on est différents et ce qu'on fait c'est vraiment moins grave, et ben l'idée était justement de montrer que non, cette femme avait grandi parmi nous, dans la société, dans un village extrêmement inséré, être soignante auprès de personnes âgées, connue de tous, aimée de tous, et que donc en fait elle ne venait pas d'une autre planète, mais de parmi nous.
Que ça reste humain en fait.
Et c'est aussi une des raisons quand même du fait divers qui est de mieux en mieux traité, que ce soit effectivement dans les podcasts du Parisien, dans Society, c'est que aujourd'hui on essaye quand même de voir ce que ça révèle de nous, de notre société et de ces gens qui viennent bien de parmi nous en fait.
Oui, Fréquenesse.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que si on prend Xavier Dupont-Ligonnès, bon, on va pas faire deux heures sur Xavier Dupont-Ligonnès, mais ce qui est intéressant dans l'affaire Xavier Dupont-Ligonnès, c'est pas tant qu'il ait tué toute sa famille en fait, c'est que ça dit des choses sur le patriarcat, ça dit des choses sur des milieux sociaux, ça dit des choses sur des régions, ça dit des choses sur 15 ans, voire 30 ans d'évolution de la France. Ça dit des choses aussi sur la bulle Internet, puisque c'est le moteur, finalement, le déclencheur de son axe. C'est-à-dire qu'il croit faire fortune avec Internet. Et c'est au début, le mec, il invente un truc qui n'est plus ni moins que Booking.com. Hein, sauf qu'il n'a pas le même nom et qu'il n'est pas aussi pointu que... Mais au départ, ce n'est pas une si mauvaise idée. Il croit qu'il va faire fortune et finalement, il ne fait pas fortune. Et le fait de ne pas faire fortune va aggraver la situation, etc., etc. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est aussi tout ce que ça raconte derrière, en fait. Et c'est là où ça devient vraiment un fait divers intéressant. Si c'est juste pour raconter un meurtre, bon, et je suis d'accord avec Damien, du coup, ça devient un peu cheap, quoi.
Alors, Damien Delceni, vous avez dit, il y a aussi une catégorisation, en effet, du fait divers. Il peut y avoir des affaires, on va dire, extraordinaires, comme on l'a dit, Xavier Dupont-Ligonnès, on a en tête l'affaire Godard, des choses dont on n'arrive pas à trouver la solution et donc qui passionnent. Et puis, il y en a d'autres. Alors là, on est dans, vous allez me dire, dans quelle sorte de fait divers? Là, notamment au Parisien, l'affaire Palmade, on a vécu, il y a eu énormément de choses. Je le disais, c'est vrai que je crois que le site du Parisien a eu une fréquentation, mais incroyable lors de...
C'est le record absolu de fréquentation du site, ouais.
Vous avez un chiffre ou pas là-dessus? Parce que...
C'est plusieurs millions de pages vues. Enfin, c'est un chiffre qui nous a nous-mêmes surpris, en fait. Nous,
ah oui,
on s'attendait pas du tout quand l'affaire démarre tard le soir. Bon, évidemment, on sait que c'est Pierre Palmade, mais Pierre Palmade était plus non plus une star de premier plan à ce moment-là. Et franchement, on n'a pas du tout, on n'avait pas du tout envisagé que ça prenne une place pareille, parce que effectivement là on est typiquement dans un fait divers qui, si vous prenez juste le fait, qui est tristement banal, qui arrive tous les jours.
Un accident
de
voiture.
Il se passe quelque chose, voilà, un accident de voiture, quelqu'un qui a pris de la drogue ou qui a bu, et là il se passe quelque chose, mais honnêtement qu'on ne maîtrise pas vraiment, c'est-à-dire que il y a une personnalité évidemment qui est impliquée, ce qui rajoute un ingrédient. Il y a aussi dans la voiture qui arrive en face, parmi les victimes, une famille avec une femme qui perd son bébé, et là vous avez en fait tout un tas de lumières qui s'allument en fait et qui évoquent quelque chose dans l'esprit des gens, c'est-à-dire que il y a la chute d'une célébrité, la déchéance de quelqu'un, c'est pas mal de dire ça, mais ça intéresse aussi quelqu'un qui a connu le sommet, qui se retrouve dans une situation comme celle-là. Et puis en face, vous avez des gens qui ont une vie parfaitement normale, parfaitement ordinaire, et qui se retrouvent saccagés. Et ces personnes-là, elles ont fait un processus d'identification, parce que ça peut être nous qui arrivons en face avec notre voiture, avec nos enfants à l'intérieur. Et puis, il y a le côté enfant, c'est-à-dire que la présence d'un enfant dans le fait divers, elle fait tout basculer en général. C'est-à-dire que moi, j'ai le souvenir, par exemple, de l'affaire Maëlys, qui avant d'être l'affaire Le Landais, était l'affaire Maëlys. Avant même que le prénom de Nordal Le Landais soit prononcé et qu'on découvre le personnage, dès le premier jour de cette affaire, ça a marché pour une raison très simple. Maëlys, elle disparaît pendant un mariage. Tous les gens qui ont des enfants, ils ont cette peur panique. Quand vous allez au square, quand vous allez dans une cérémonie, vous tournez la tête 5 secondes, vous la retournez, il n'y a plus personne. Et votre enfant est disparu. Et ça fonctionne parce que la disparition d'un enfant, le mystère, et après viennent se surajouter des éléments. Et Palmade, c'est ça, c'est une espèce de juxtaposition de la déchéance de quelqu'un de connu, des victimes innocentes qui arrivent en face et dont la vie est brisée, la drogue, l'alcool au volant, et tout ça fait une espèce de cocktail, mais qu'on n'avait pas imaginer voir prendre une telle ampleur.
C'est ça. Et Elise Costa, c'est vrai que c'est un peu le fait. C'est vrai que ce fait divers qui est arrivé, donc c'était en février, je crois, février dernier, a pris un peu tout le monde de court par son intérêt de la part du public.
Vous parlez de l'affaire Palmade.
Oui, exactement.
Oui, mais je pense que c'est exactement ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire qu'en fait, le fait que... Par exemple, moi, je trouve que c'est intéressant par rapport à la déchéance du personnage qui a été extrêmement connu dans les années 90 et qui était vraiment une superstar à la française, quoi. Mais et effectivement, il y a un côté un peu un peu fascinant autour de ça, de se dire en plus il a brisé la vie d'une famille complètement normale qui elle en plus s'est retrouvée propulsée dans, déjà que c'est assez douloureux comme ça, mais en plus elle s'est retrouvée propulsée dans un système médiatique qui, à mon avis, les a complètement dépassés.
Mmh, oui, c'est ça. En effet, on est vraiment sur ce sujet-là. Et en effet, quand on voit aujourd'hui ces faits divers, et quand on voit l'importance aussi franquinesque, à un moment, les faits divers, tout à l'heure, vous le disiez, Damien Delceni, c'est devenu un peu plus touffu, des journaux s'intéressent davantage. Et rien que l'appellation, avant, on disait « les chiens écrasés ». Aujourd'hui, on parle de faits divers, en gros. C'est-à-dire qu'avant, c'était considéré comme quelque chose d'un peu sale ?
Non, c'était un peu sale, mais surtout parce que ça se limitait à des chiens écrasés. Enfin, j'ai envie de dire, on était sur le fait, en fait, pur et dur. Et le fait pur et dur est rarement très, très intéressant, en fait. Ce qui est intéressant, c'est le contexte et c'est tout ce qui va être autour, en fait. Pierre Palmade, il y a effectivement ce que Damien a décrit. Il y a aussi la vie secrète d'une star qui est révélée. C'est-à-dire que les gens du milieu savaient un peu quelle était la vie de Pierre Palmade, mais le grand public ne savait pas quelle était la vie de Pierre Palmade. Et donc, tout à coup, ils découvrent une vie faite d'orgies, de machin, etc., etc. Ils se disent, ah ouais, ok, d'accord, c'était ça, Pierre Palmade. Pour eux, Pierre Palmade, c'était un mec qui faisait un sketch sur une scène, quoi. Mm. Et en fait, c'est pas ça. Et donc c'est un peu tout ce qui va aller autour, au-delà du simple fait, en fait. Et nous, je me souviens, au début de Society, on avait une rubrique qui a disparu. Alors, c'est marrant parce que maintenant, on est vachement connus pour nos faits divers. Alors, en fait, au début de Society, il y avait carrément un cahier faits divers qui s'appelait La Jungle, où il y avait à chaque fois 3-4 faits divers qui étaient décrits et qui étaient enquêtés, et sur plus ou moins de signes. Et en fait, à chaque fois, on partait de faits divers qui étaient souvent trois lignes dans des journaux, en fait. Et nous, on creusait autour et on se disait « Ah, tiens, ces trois lignes-là, peut-être que si on creuse autour, il va se passer qu'il y a des choses autour à raconter qui sont intéressantes. » C'était pas toujours le cas, donc ça prenait plus ou moins de place. Mais voilà, il y a encore ce truc de raconter en trois lignes juste des faits. Et ça existe toujours, le côté chien écrasé. C'est juste qu'après, il y a des faits divers qui prennent plus d'ampleur, mais ça fait un petit moment que ça dure. Un fait entrer l'accusé, ça
doit
avoir 30 ans, par exemple.
C'est ça, oui. On est mieux, je voulais réagir par rapport à fait entrer l'accusé. C'est une référence, vous, justement, en termes de traitement de faits divers. Vous trouvez cette émission ?
Alors, je trouve que c'est très regardé, en tout cas, que les gens en parlent beaucoup. Enfin, moi, on me parle énormément du dernier fait entrer l'accusé. En plus, il y a des rediffusions, donc on en parle d'anciens aussi. Et que, effectivement, ils ont été quand même parmi les premiers à se dire on va faire les choses très 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 bien, c'est-à-dire qu'on va se donner énormément de temps. En termes de prod, ils sont à 3-4 mois, ce qui est, je crois, un peu les plus longues prods pour les émissions de faits divers. Et à aller voir aussi, à se dire on fait, ils passent après tout. Hein, fait entrer l'accusé, c'est-à-dire qu'ils attendent une condamnation définitive. S'il y a un pourvoi en cassation, ils attendent le résultat, ils attendent que la personne soit définitivement condamnée. Ce qui peut poser d'ailleurs des soucis en termes de réinsertion quand c'est des condamnations pas trop longues. Hein, pour les gens, ça peut être vraiment gênant, les rediffusions. Mais ça, pour le téléspectateur et pour la qualité de ce qu'ils produisent, ça a cet énorme avantage que du coup, ils vont avoir des juges, des policiers qui vont témoigner. Et c'est vrai, donc du coup, ils nous emmènent complètement dans les coulisses. Des juges d'instruction qui parlent, des policiers enquêteurs qui parlent, c'était assez rare avant eux. Enfin, ils ont vraiment amené ça.
Et c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, véritablement, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne se contente plus du fait. On veut aussi, en tant que spectateur, que lecteur, on veut aussi l'enquête, en fait, tout simplement. Si on veut vivre...
On veut la vie de ces gens, en fait. De part et d'autre. En fait, voilà, c'est vraiment le caractère humain qui est très très important. C'est aussi bien les victimes que les protagonistes principaux, quoi.
Allez, on va continuer à parler faits divers dans un instant. On va voir si ça correspond vraiment à notre époque. On parle d'une époque violente. Alors, est-ce que les faits divers sont plus violents et correspondent parfaitement ou pas à l'année 2023? Ce sera juste après Étienne Dao avec Vanessa Paradis, Tirer la nuit sur les étoiles.
À la frontière de nos interdits, interdits. Surfer sur une mer légère quand la nuit éclaire nos folies ordinaires. Tu m'as dit oui, tu m'as dit oui. Tirer la nuit sur les étoiles. certains pas. Lis ton destin au mien. Serait-ce l'odeur du soir qui tombe, l'humeur vagabonde en une seconde. Je t'ai dit oui. Je t'ai dit oui. Pour danser au bord de ton abîme, il fallait les rives, mon improbable cime. Tu m'as dit oui, tu m'as dit oui. Tire la nuit sur les étoiles, la nuit nous appartient. Au matin, mettre les voiles. Plus rien ne nous retient. Wow. Viens plus près. Tendrez la nuit.
À de futures caresses, un doigt sur les lèvres. Tu ironises sur.
Le débat de midi, on parle fait divers, et oui, jusqu'à 13h sur France Inter. Alors, fait divers, est-ce qu'on est arrivé un peu à saturation? On voit qu'il y en a partout actuellement, que ce soit sur les plateformes, dans les journaux, à la radio, bien sûr, à la télévision. Et pour en parler, nous avons réuni aujourd'hui Élise Costa, qui est plume de parquet pour Sled, créatrice du podcast Fenêtre sur cour, autrice du livre Les Nuits que l'on choisit, également Franck Hannes, président et cofondateur de Sopress, Damien Delceni, qui est rédacteur en chef politique, Justice du Parisien, animateur du podcast Fait divers du Parisien Crime Story, et Ondine Millau, autrice, ancienne journaliste à Libération, spécialisée dans les faits de société et la chronique judiciaire, autrice des livres Les monstres n'existent pas et Le candidat idéal. Vous pouvez bien sûr réagir via l'appli France Inter pour nous laisser des messages et également des notes vocales. Et oui, alors ça, il faut pas hésiter, on diffusera bien sûr à l'antenne pour en débattre ensuite avec nos invités. Et d'ailleurs, là, on a reçu quelques mails. Et alors, j'avais justement une question à vous poser, c'est souvent la question d'ailleurs qui revient, Damien Delceni, à propos des faits divers. Ça, c'est Eric qui nous dit vous vous intéressez aux faits divers, en parlant de nous, en disant que au débat de midi, nous sommes des pompiers pyromanes. Vous vous intéressez aux faits divers comme quelque chose d'un peu répugnant et réservé au peuple, mais en fait vous alimentez cet intérêt. Est-ce que vous comprenez ça aussi? C'est souvent ce qu'on dit à nos propos, quand nos rédactions s'intéressent en effet aux faits divers, on dit à vous alimenter ce genre de choses.
Oui, c'est un peu un débat un peu éternel, oui. mais le fait divers, on ne le crée pas, nous. C'est-à-dire qu'il survient, on le traite, on l'analyse. Encore une fois, je pense qu'on essaie tous, en tout cas aux Parisiens, de donner la place qui est justifiée. Encore une fois, on ne traite pas un fait divers pour faire peur aux gens ou pour les horrifier. Je pense que de toute façon, ça ne fonctionne pas, en fait. Quand on décide de raconter une histoire ou de se pencher sur un dossier plutôt qu'un autre, c'est parce que on va sentir que peut-être derrière, il y a des personnages. Ça va dire quelque chose, effectivement, ce qu'on disait de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc, on fait pas du buzz pour faire du buzz ou de l'affreux pour faire de l'affreux, parce que d'abord, ça n'intéresse personne, même pas le journaliste qui va s'en occuper, d'ailleurs. Et je pense qu'au bout du bout, que ce soit l'auditeur, le lecteur ou le spectateur, il sera pas pris dans une histoire qui n'a pas de ressort autre que, effectivement, le pur fait violent et affreux.
C'est ça. Élise Costa, quand on dit souvent... aussi, c'est souvent une remarque que l'on a à propos des faits divers, c'est le miroir de nos sociétés. Est-ce qu'on peut le résumer ainsi, ou alors, ça, comme ça a toujours été le cas, on peut pas non plus tirer une conclusion sur une société qui est plus violente qu'une autre ?
Non, ça, le fait que la société soit plus violente aujourd'hui qu'avant, j'y crois pas du tout. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que quand on assiste à un procès, c'est sûr que, parce que les procès, généralement, d'assises, en tout cas, ils durent entre, je sais pas, 3 jours, et puis ça peut aller à plusieurs semaines. Ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir un condensé d'humanité et un condensé, effectivement, de la société. Au travers des témoins, mais même des enquêteurs, parce que chacun va arriver avec sa façon de parler, sa façon de travailler, sa façon de voir le monde aussi. Et durant toutes ces journées d'audience, du coup, on va avoir effectivement un résumé. Et c'est vrai, tout ce qu'on a dit avant, et c'est la différence, je pense, avec par exemple les chaînes YouTube qui s'intéressent au true crime, c'est ouais. que en tant que journaliste, on va essayer d'aller au-delà du crime et de dire autre chose que les faits sordides ou les détails glauques, etc. Et ça, le procès d'assises est très bien pour ça.
Un mot, Élise Costet, on en parlera tout à l'heure, mais juste sur cette définition, on entend beaucoup en ce moment true crime. Qu'est-ce que c'est?
Bah, c'est une définition qui est américaine et qui, mais c'est l'équivalent de notre fait divers en
D'accord.
fait, qui est aussi une expression très française. Et tout à l'heure, vous parliez du fait qu'on était passé de chiens, oui. chiens écrasés à fait divers, mais aujourd'hui même, on parle on dit plus affaire criminelle, parce qu'on sait justement qu'on peut la déployer et qu'on peut tirer plusieurs tiroirs.
On dit, mais ce que dit Iskosa, là, est assez intéressant justement sur ce travail journalistique par rapport aux faits divers. Il n'est pas seulement que de dire les horreurs qu'il y a dedans, il y a aussi de parler de l'humain, il y a aussi de décrire ce qui peut se passer. C'est ça aussi la différence, tout simplement, entre recevoir un fait divers en pleine figure et lire une enquête journalistique et un travail journalistique.
Oui, je voulais rebondir aussi sur ce monsieur qui disait que c'était oui. répugnant. Je pense que ça, je ne suis pas du tout d'accord, puisque en fait, il s'agit de parler de la violence. Et ce qui est, je trouve répugnant, moi, c'est la violence cachée, c'est-à-dire la violence qui encore existe dans les familles, qui encore existe dans les couples. Et finalement, lorsqu'il y a un procès d'assises où les choses sont plutôt bien faites, lorsqu'il y a des journalistes qui enquêtent, la violence, elle est mise sur le tapis. Elle n'est plus cachée. Et on agit quand même, on essaye de voir quels ont été les signes avant-coureurs. C'est quand même ce qui fait progresser la société en prévention. Tous les progrès qui ont été faits là dans la lutte contre les violences aux femmes, dans la lutte contre les maltraitances aux enfants, c'est aussi quand même parce que des histoires ont émergé et que ces histoires singulières, on s'est demandé à quel point elles représentaient en fait des faits de société. Et on s'est rendu compte que oui, massivement, quand vous allez aux assises, ce qui peuple les assises, c'est des violences aux femmes et des violences aux enfants. C'est pas le braqueur original, Rouletabille, super histoire. Non, c'est des choses très dures. Mais qui ne sont pas répugnantes, qui sont la vie. Enfin, je veux dire, quand on dit un enfant sur 10 victimes, une femme qui meurt tous les 3 jours, enfin, c'est la vie. Et en parler à travers des histoires, c'est aussi permettre d'attirer l'attention. Et c'est comme ça, quand même, qu'on a fait des progrès de société et de lutte hyper importants. Quand Camille Kouchner, elle sort son livre, c'est une histoire. Mais tout ce qui se passe derrière, c'est une seule histoire, celle de son frère et d'elle.
Mais ça
tout ce qui
ensuite,
se passe derrière,
effet,
c'est important, vraiment.
Et je pense qu'on a fait aussi, alors sur ce registre particulier, des progrès sur la façon de les raconter aussi. C'est-à-dire que si vous lisez Réinventer l'amour de Mona Chollet, il y a un chapitre assez important sur les féminicides, qui est assez dur à lire, mais qui montre bien la façon dont on a évolué dans la façon dont on parle des féminicides, qu'on appelait avant crime passionnel. Ça dit tout, en fait.
Parce qu'on ne voulait pas le nommer, en fait.
Bah, c'est-à-dire que c'était crime passionnel, il y a presque un côté positif, en fait. C'est-à-dire que ça devenait un truc, waouh, c'était la passion qui avait engendré le crime. C'était presque romantique, en fait. C'était horrible, en fait. Mais pendant des années, ça a été ça. Et aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'aurais tendance à dire que je ne pense pas que la société soit plus violente aujourd'hui. Je pense qu'au contraire, elle prend davantage conscience de sa violence et elle essaie de la traiter et d'y faire face et de la regarder en face et de la traiter de manière objective et un peu, j'allais dire, normale. Je trouvais anormal de dire crime passionnel pour un féminicide, en fait.
Bien sûr.
Et aujourd'hui, on dit féminicide. Donc ça évolue.
Oui, dans le bon sens. Alors en effet, Élise Costet, vous vouliez réagir par rapport à...
Oui, c'est-à-dire que par exemple, vous savez, le terme de, par rapport à tout ce qui a été dit, donc effectivement, le terme crime passionnel n'est plus utilisé dans les journaux, mais il n'est plus non plus utilisé au sein des cours d'assises. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, on se rend compte que le droit pénal, c'est le miroir, enfin pardon, pas le miroir, mais c'est vraiment la vitrine de la justice en France. Et du coup, les magistrats, etc., se savent regarder. Et ce qui est intéressant par rapport au terme de féminicide, c'est que c'est un terme qu'on a commencé à avoir d'abord dans les journaux, puis ensuite de plus en plus. Et c'est un terme qui n'est pas dans le code pénal, pas plus qu'infanticide. Mais ce que j'ai remarqué, moi, c'est que petit à petit, on l'entend au sein des cours d'assises. C'est-à-dire que même les magistrats vont dire ce terme qui pourtant n'existe pas dans le code parce que ils savent que ça répond à une à une exigence de la société.
Oui, c'est ça. Damien Delceni, pour vous aujourd'hui, en effet, c'est assez étonnant parce qu'on l'entend souvent là, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le côté la société est violente, donc les faits divers sont de plus en plus violents. Et pourtant, quand on remonte, quand on se plonge dans les archives, on se rend compte, par exemple, quand on lit même l'autrice Colette qui a suivi les procès de Landru, de la bande à Bono, on se rend compte que ça a toujours été le cas. Donc pour vous, le procès d'une société de plus en plus violente ne serait pas, on peut pas dire qu'une société est plus violente par rapport aux faits divers en fait.
Ah non, ça je suis convaincu comme tout le monde ici que la société n'est pas plus violente aujourd'hui. Simplement, médiatiquement parlant, moi je suis pas si vieux que ça. Mais moi, j'ai commencé ce métier, il n'y avait quasiment pas d'Internet, il n'y avait pas de chaîne d'infos. Aujourd'hui, ce qui change tout, c'est qu'un fait divers, il va être dupliqué sur des dizaines et des dizaines de canaux tous les jours. Avant, vous aviez 2-3 quotidiens qui s'intéressaient un peu à ça, une télé vaguement. Aujourd'hui, un fait divers, il peut occuper toutes les antennes radio, télé et presse écrite pendant 3-4 jours. Donc, il y a un effet un peu masse, un peu loupe, qui fait qu'effectivement, on a l'impression que pendant 3 jours, on vit dans une société complètement débordante de violence. Mais je pense que c'est juste une perception par rapport à l'offre médiatique qui est celle d'aujourd'hui, qui était évidemment pas la même il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Vous rappeliez Landru, la bande à Bono, effectivement, c'était pas des enfants de cœur non plus, mais simplement l'écho médiatique, il était beaucoup moins important. Moi, je vous raconte juste une anecdote. Pendant les années où j'étais encore reporter au Parisien, je me suis occupé des affaires corses pendant plusieurs années. À une époque, on descendait en Corse parce qu'il y avait eu 25-30 règlements de compte dans l'année. Tout le monde trouvait ça énorme. Mais moi, un jour, il y a un type qui m'a dit sur place, mais reprenez les chiffres, les statistiques d'il y a 50-60 ans en Corse, il y avait 350 morts par an. Ouais. Alors, c'est 30, c'est déjà beaucoup trop, mais en fait, dès qu'on se pose 5 minutes sur la matière fait divers et qu'on regarde, ne serait-ce que, c'est pas la peine de remonter 2 ou 3 siècles en arrière, vous remontez parfois 40, 50, 60 ans et vous découvrez qu'en réalité, le phénomène, il n'a pas beaucoup évolué. Ce qui a, encore une fois, je pense, évolué, c'est cette offre et c'est cet effet masse qui fait que peut-être, chez les auditeurs, chez certains spectateurs et chez certains lecteurs, il y a un côté un peu, il y a une tolérance à la violence qui est peut-être différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être des choses qu'on ne tolère plus parce que justement, cette violence, elle est beaucoup plus exposée qu'avant.
On dit Milo, oui, pardon.
Même sur la médiatisation, si on prend l'affaire du petit Grégory, par exemple, c'est l'affaire la plus médiatisée en fait divers ever. Enfin, il n'y a jamais eu une affaire aussi médiatisée que l'affaire du petit Grégory. Si on regarde le documentaire sur Netflix, ils ont pu faire un documentaire qui est uniquement sur la médiatisation de l'affaire. C'est-à-dire que eux, vu que France 3 avait fait un très bon documentaire sur l'affaire, ils se sont dit, il faut qu'on prenne un autre angle. Et ils ont pris un angle qui est uniquement sur la médiatisation de l'affaire. Et la façon dont c'était médiatisé était beaucoup plus dégueulasse que la façon dont c'est médiatisé aujourd'hui. L'affaire du petit Grégory, c'est horrible. La façon dont c'est médiatisé, c'est atroce. On ne respecte pas le deuil des familles, on ne respecte rien. Il n'y a rien qui est respecté. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Enfin, je veux dire, peut-être à de rares exceptions près, mais les faits divers sont traités, je pense, avec plus de décence qu'hier.
Il est vrai que quand on lit des choses sur l'époque, donc en 1984 sur l'affaire du petit Grégory, on voit quand même aujourd'hui des journalistes qui ont accès aux scènes de crime très facilement. D'ailleurs,
des journalistes qui manipulaient les parents. Enfin, c'était atroce, quoi. Je veux dire, il y a quand même un journaliste.
Ils attendaient devant chez eux.
Il y a un journaliste qui a volé. Non, mais il y a un journaliste qui a volé la photo du petit Grégory sur la tombe. Et qu'après, aller voir les parents, vous vous rendez compte, on a volé la photo de votre fils, etc., etc., etc. Les parents, ils étaient en pleurs. Et 3 jours après, il est revenu, il dit, j'ai retrouvé la photo. Tout ça pour se faire accepter par les parents et être celui qui allait avoir le recueil des témoignages des parents, quoi. Enfin, il y avait des méthodes qui étaient des méthodes de salopards, quoi. Ça n'existe plus.
Et ça, en effet, on le voit tout à fait, on le voit très bien dans ce documentaire, l'affaire du petit Grégory. On le voit, en effet, ça, ce sont des, juste une petite parenthèse à propos de l'affaire Grégory. Damien Delceni, vous êtes rédacteur en chef police-justice au Parisien. Juste, est-ce que cette affaire, c'est toujours celle qui hante, quelle que soit la rédaction en France, le petit Grégory. Dès qu'il se passe un petit truc sur ce sujet, on a l'impression qu'il y a une alarme qui
oui,
sonne dans toute la rédaction.
Il y a deux choses moi, que j'ai notées sur l'affaire Grégory. D'abord, c'est le côté transgénérationnel. Moi, j'ai des enfants qui ont une vingtaine d'années, qui ont découvert l'affaire Grégory à l'occasion des documentaires il y a 2-3 ans et qui se sont passionnés pour cette affaire-là. Ça veut dire que nous, on a connu cette affaire. Moi, j'ai connu cette affaire, j'étais enfant. Ouais. Et là, quelque part, j'ai grandi avec ça un peu en toile de fond. Les enfants qui ont 20 ans aujourd'hui découvrent cette affaire et se passionnent pour cette affaire. Ceux qui sont plus anciens ont vécu avec cette affaire. Et puis, évidemment, l'affaire Grégory, elle a ce côté qu'a un peu l'affaire, enfin, même beaucoup l'affaire du pont de Ligonnès, c'est que c'est un feuilleton qui n'est pas terminé. On ne sait pas. Alors, tout le monde a son avis. En plus, c'est ça qui crée aussi, c'est de l'intérêt pour un fait divers, c'est que tout le monde peut donner son avis à la machine à café, moi je pense que si, moi je pense que ça, moi je pense que c'est lui. Et cette affaire, elle dure toujours. Effectivement, il y a des espèces de rebondissements, comme dans un feuilleton, comme dans une série, ponctuellement. Donc elle est fascinante pour ça, bien sûr.
On dit, mais je dis tout à l'heure, vous êtes spécialisé dans les faits de société et chroniques judiciaires. Qu'est-ce que le monde de la justice pense justement des faits divers et de ce traitement? Est-ce qu'il s'intéresse aux faits divers particulièrement? C'est ça qui est étonnant, c'est qu'il en parle tous les jours, mais est-ce qu'il l'évoque? Est-ce que ce traitement aujourd'hui des faits divers médiatiques, est-ce que ça l'intéresse?
Vous voulez dire les magistrats, les avocats Alors bon, les avocats pénalistes, oui, on va dire, on a quand même des conversations enflammées. Eux-mêmes, non, mais c'est vrai, et eux-mêmes en plus ont accès parfois à des choses, par leur métier, mais du coup, ils s'échangent des infos entre eux. Voilà, donc ça donne effectivement, on a des discussions très importantes. Tout le versant pénal de la justice, tous les magistrats qui vont être dans le pénal, parce que c'est une petite partie en fait du monde de la justice, hein. Et les avocats aussi pénalistes, oui, je crois qu'ils sont assez passionnés, parce que quand on discute avec eux, ça part tout de suite très vite sur leur dossier, mais sur tout un tas d'autres dossiers qui ressemblent, etc. Mais il faut voir que la justice, c'est pas que le pénal, et que voilà, si vous allez au prud'homme ou ailleurs, vous pouvez tomber sur des magistrats, des avocats qui ne s'intéressent pas du tout aux faits divers.
Élise Costa, vous-même qui êtes, comme on dit, plume de parquet pour Slate, ces faits divers, est-ce que des avocats, ou des magistrats, est-ce que c'est leur discussion du quotidien, ils s'y intéressent au traitement justement de faits divers par les médias et ils regardent, vous savez, sinon des true crime aussi sur Netflix?
Ah oui, ils regardent et puis ils suivent même en direct, parce que je sais que notamment Stéphane Durand-Soufflant, qui travaille pour le Figaro, je l'ai déjà vu faire, où en fait il écrit un papier où il allume le président parce que les débats sont pas assez bien menés ou parce que ça traîne, etc. Et le lendemain, soudain, la tournure des débats change et la façon de faire change. Donc ils se savent regarder, ils sont très attentifs parce que. Mais vous savez aussi le parquet, l'avocat général, enfin ils représentent la société, ils sont avocats de la société, donc forcément. C'est leur métier. Ils doivent faire attention à ça. Mais je me souviens même aussi au début quand j'ai commencé, je demandais un peu naïvement à un confrère. Je lui disais, mais en fait, quel est l'intérêt pour les enquêteurs de te parler? Et il disait, mais quand tu rentres dans un bureau, dans un commissariat, dans le bureau en fait des enquêteurs, ils ont des coupures de presse des affaires qu'ils ont traitées, parce qu'en fait c'est une façon de montrer aussi qu'ils font bien leur travail. Donc bien sûr que ça les passionne aussi et que bon, alors évidemment ça les embête toujours un peu quand on va un peu trop fouiller ou quand on pose un peu trop de questions, mais enfin quand même il y a une dynamique qui se joue entre la presse et puis le monde judiciaire.
Allez, on va continuer à parler justement des faits divers et de notre passion, hein, malgré eh bien notre peur des monstres ou pas. Justement, on va en discuter dans un instant. On continue. Vous pouvez bien sûr réagir via l'appli France Inter en nous laissant des messages et des notes vocales. Et tout de suite, on va écouter eh bien Noël Gallagher. Et oui, on aime beaucoup avec les High Flying Birds. Open the doors, see what you find.
France Inter. Jean-Mathieu Pernin, le débat de midi.
Le débat de midi, on parle d'un sujet purement estival. Hein. Vous avez sûrement vu des magazines en parler, notamment un, hein, bien sûr, parce qu'il est autour de la table, donc il faut, voilà, j'en parle, c'est pour ça. Notamment Society, bien sûr, on parle des faits divers. D'ailleurs, avec France Inter, il y a un hors-série de Society, hein, Cold Case, Affaire mystérieuse, disparition, butin introuvable. Hein, c'est parfait à lire, bien sûr, sur la plage. Et pour en parler, donc, dans le débat de midi, nous avons Élise Costa, qui est plume de parquet pour Slate, également, donc je disais Franck Hannaise, donc président et cofondateur de Sopress, Damien Delceni, rédacteur en chef police-justice du Parisien, et Ondine Milo, autrice, ancienne journaliste à Libération. Alors, vous avez pu, eh bien, on peut laisser, hein, vous savez, des notes vocales sur l'application France Inter, comme nous laisser des messages, et justement, eh bien, Marouane nous a laissé une note vocale à propos des faits divers, et on l'écoute tout de suite.
Est-ce que le fait divers ne dépasse-t-il pas la fiction? Est-ce que c'est pas ça aussi qui est passionnant dans les faits divers? C'est de constater que la fiction, même écrite ou scénarisée, finalement, dans la réalité, on a des aberrations et des situations qui sont parfois ubuesques et qui fascinent parce qu'elles sont juste encore plus folles que ce que la fiction aurait pu nous proposer.
Voilà une note vocale laissée par Marouane de Paris sur l'application France Inter. N'hésitez pas à faire comme lui également. Alors on dit Mio, c'est vrai, on l'entend souvent ça. Finalement,
oui,
la réalité est plus forte que la fiction.
Il a évidemment raison dans le sens où on voit bien maintenant que les producteurs des plateformes, les diffuseurs, les producteurs de cinéma sont à la recherche d'histoires vraies plus que jamais. C'est-à-dire que on nous demande, on nous sollicite, nous les journalistes, et puis on voit bien de toute façon ça se multiplie. Il y a un côté aussi, je pense, à une époque aujourd'hui où on est submergé de contenu, de canaux, etc., où on n'a jamais consommé autant d'histoires, finalement. Et comme tout consommateur un peu addict à un certain contenu, il lui faut une dose plus forte. Et le côté histoire vraie, enfin, genre, ça a vraiment existé, ça rajoute un truc. Voilà. Et c'est vrai, effectivement, que la fiction, l'imagination, pâtit un peu, parfois, de cette recherche à tout prix du vrai. Voilà.
Et c'est ça aussi, c'est vrai, Franck Hannaise, quand on voit un fait divers, alors parfois même le plus surréaliste, hein, parce qu'il y en a qui sont très drôles, forcément parfois des faits divers qui sont absurdes, c'est vrai qu'on se dit mais personne n'aurait pu inventer ça.
Non, mais si on prend, je prends les derniers qu'on a traités dans Society, l'affaire Chevaline par exemple.
La tuerie de Chevaline, donc
c'est fou. C'est fou parce que à chaque fois qu'on ouvre un tiroir, c'est toujours plus fou en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'affaire n'en finit jamais. Et effectivement, on aurait écrit ça en scénario, on se serait dit mais n'importe quoi. L'affaire Xavier Dupont-Ligonnès, c'est pareil. Hein. Oui. On ouvre une porte, c'est une secte. On ouvre une autre porte, c'est un truc échangiste. On se dit mais c'est tout ça dans la même affaire. Mais vous êtes cinglés en fait.
Bien sûr.
C'est pas crédible. Bah, sauf que c'est la vérité en fait.
Oui,
et voilà, c'est-à-dire que souvent, enfin la vie des gens est souvent plus folle que ce qu'on peut imaginer.
Oui, il y a des ramifications presque scénaristiques, on va dire, notamment la tuerie de Chevaline ou des choses. On dirait, si on le voit dans un film, on se dit, oh non, mais alors là, bon, c'est un peu trop exagéré. Et là, c'est vrai qu'on parle de secrets nucléaires en même temps, d'agents secrets.
C'est ça.
C'est ça qui paraît.
Quand on découvre, nous, quand on fait l'enquête et qu'on découvre que, en fait, la femme du frère irakien, en fait, il y a des ramifications aux États-Unis avec les trucs plus ou moins louche de services secrets, etc. On se dit, mais non, mais ça, où ça va, quoi? Ça devient n'importe quoi.
C'est ça. Et on n'a toujours pas la réponse,
d'ailleurs. Et on n'a toujours pas la réponse, mais ça devient fou. Ouais.
Damien Delceni, vous animez aussi le podcast du Parisien Fait Divers Crime Story. Ce titre, d'ailleurs, Crime Story, montre bien, il y a une histoire aussi à raconter. Vous en parliez en début d'émission, de personnages aussi. Est-ce que, véritablement, on est avec ces faits divers? On trouve, comme le disait Ondine Milo à l'instant, donc une histoire plus vraie que vraie, avec des personnages plus personnages que personnages, finalement.
Bah, moi, je trouve, ce qui rend ce métier, c'est pour ça que je le fais sans discontinuer depuis 25 ans, c'est ce qui me passionne. Parce qu'en fait, le fait divers, moi, je compare toujours ça à une forme de bulle. Et vous percez la bulle. Le fait perce la bulle. Et effectivement, après, bah, vous allez attraper ce que vous allez attraper, mais vous le savez pas en arrivant sur un fait divers ce qui va se passer. Vous découvrez. Et ce qu'on dit sur Dupont de Ligonnès, mais ce qu'on peut dire sur, même sur des affaires un peu, peut-être un peu moins majeures, mais quand même, comme des affaires comme Daval ou comme la disparition de Delphine Jubilard, c'est que vous arrivez sur une disparition. Vous savez pas si ça va durer 2 jours, 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 10 ans. On n'en sait rien. On arrive, et effectivement, une fois qu'on a percé la bulle du fait, brut, on va découvrir des personnages avec des secrets, avec des histoires. Et plus il va y avoir de secrets, plus il va y avoir d'histoires, plus forcément ça va être intéressant pour nous et évidemment pour le lecteur, parce que Dupont de Ligonnès, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que ces affaires sont pas résolues, parce que Dupont de Chevaline, pour un peu travailler dessus, il y a tellement de portes.
C'est ça, oui.
Évidemment, les enquêteurs, ils sont comme nous, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont chercher en Irak, ils vont chercher en Suisse, ils vont chercher peut-être tout près de Chevaline, parce que c'est peut-être là que ça s'est joué aussi. Mais le fait qu'il y ait plusieurs pistes, qu'il y ait des histoires dans l'histoire, qu'effectivement, le fait divers, il a ce pouvoir de venir percuter encore une fois des univers qui sont totalement déstabilisés et dont on va effectivement découvrir les secrets. L'affaire Daval ou l'affaire Jubilar, pourquoi elle passionne autant? Le fait en tant que tel, il n'est pas très très original en réalité. Simplement, il va tout de suite percuter des familles, percuter des univers sociaux, percuter des villes aussi, des villages dont on n'a jamais entendu parler. Cagnac-les-Mines, c'est connu parce qu'il y a l'affaire Jubilar. Donc il y a aussi des villes qui maintenant portent ça comme un fardeau parce que c'est devenu la ville du fait divers. Mais tout ça fait qu'on va découvrir la tuerie du Grand Bornand il y a très très longtemps, l'affaire Flactif, et avait aussi ce pouvoir de faire ressortir tout un tas de secrets, de non-dits, et c'est ça qui évidemment est fascinant.
Oui. On dit mieux, je voyais réagir justement par rapport à ça, puisque à ce que disait Damien Delceni, c'est ça aussi, tous ces faits, à un moment qui ressortent.
Oui, et puis encore une fois, hein, on l'a déjà dit, mais tout ce qu'on identifie tout d'un coup comme un problème de société, enfin là, il parlait de féminicide et ces affaires-là, elles ont fait beaucoup aussi pour faire avancer tout ce qu'on
l'a vu l'année dernière, notamment avec un film, La Nuit du 12, qui parlait d'un féminicide. Et c'était au départ ce qu'on appelait un fait divers, en fait, hein, véritablement, qui se passait en Savoie, qui a eu d'ailleurs le César cette année du meilleur film. C'est un féminicide.
Mais c'est au départ un livre de Pauline Guéna qui a enquêté, donc qui a passé un temps fou dans un commissariat, et ils ont extrait cette histoire d'un livre où il y a plein d'histoires qui sont le quotidien du commissariat. Et c'est ça aussi que je trouve très intéressant dans cette démarche-là et dans la façon dont on aborde aujourd'hui les faits divers, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément chercher que l'extraordinaire. Il y a ça, hein, il y a tout ce qu'on a dit sur Chevaline, etc., Ligonnès, mais on va aussi parfois prendre des faits de société qui malheureusement représentent des violences ultra banales. Il y a ça aussi, hein. Mais que le fait de le raconter à travers des gens, en l'incarnant, peut-être on peut faire passer des messages qu'on passe plus facilement qu'en donnant des chiffres.
Élise Costa, ça veut dire aussi que notre quotidien, il y a un côté extraordinaire aussi à notre quotidien, c'est ce qu'on recherche aussi à travers les faits divers?
Ouais. Après, je pense aussi que il faut pas être arrogant dans le sens où il faut pas se dire le réel n'a pas besoin de fiction. En réalité, nous, on se sert dans notre travail beaucoup de codes de la fiction, notamment de codes du récit, de structures narratives, pour pouvoir raconter l'histoire. Parce que ce qui nous intéresse, comme le disait Ondine, c'est de faire passer des messages et de raconter autre chose. Et donc, pour ça, on va se servir des codes de la fiction, donc du récit, pour pouvoir emmener le lecteur ou le spectateur, hein, quand c'est à la télé, et l'emmener là où on veut l'emmener.
Alors, il y a aussi, un aspect sur les faits divers, là, celui-là qui est un peu plus compliqué. Et sur ça, je m'adresse à vous, Damien Delceni, en tant que rédacteur en chef police-justice du Parisien, parce que je pense que de temps en temps, vous devez être percuté par ça. C'est Pascal qui nous a envoyé ce message. Quid de l'analyse, des récupérations politiques des faits divers? Est-ce qu'aujourd'hui, on assiste aussi à de plus en plus de récupérations, ou ça a toujours été le cas, ou aujourd'hui, on instrumentalise davantage? Vous avez l'impression?
Alors, c'est pas nouveau, mais nous, dès que la politique vient se mêler d'un fait divers, on sait que le temps se couvre pour nous, pour tout le monde en fait. C'est-à-dire que c'est jamais une bonne nouvelle. D'abord souvent parce que les politiques choisissent jamais le bon fait divers pour parler d'un sujet. Moi je suis très frappé par ça. C'est-à-dire qu'ils se trompent tout le temps de fait divers quand ils essaient de sortir quelque chose dont ils veulent faire un fait politique ou un fait de société. Et surtout, en fait, ça modifie tout, ça perturbe tout. Et nous, effectivement, dès que ça devient politique, ça devient gênant en réalité, parce qu'on ne travaille plus de la même manière. Et effectivement, on tombe après dans les outrances, dans tout un tas de choses. Et c'est jamais une bonne nouvelle pour nous déjà au départ. Et on sait que c'est pas une bonne nouvelle non plus pour le lecteur ou pour l'auditeur, parce que en fait, ça vient perturber quelque chose. Alors, je dis pas qu'on n'est pas une secte, hein, mais on sait que voilà, un fait divers qui devient politique, c'est pas bon.
Ouais, on dit mieux.
En plus de ça, il y a eu une grande période, moi j'étais à Libération, qui était sous Sarkozy, avec Rachida Dati, ministère de la Justice, où tout d'un coup on se retrouvait à 1000 au procès d'une joggeuse parce qu'il l'avait pris et il l'avait instrumentalisé. Mais en plus de ça, ce qui est terrible, c'est qu'ils ont, les politiques utilisent le fait divers pour faire des lois. Donc à la va-vite, surfant sur l'émotion pour en gros détourner l'attention du peuple de l'économie, du chômage, davantage des problèmes de pouvoir d'achat. Et donc, on a des lois faites à la va-vite à partir de faits divers qui correspondent pas à un besoin réel de la justice et qui aboutissent à un empilement de textes dont les cours d'assises et les tribunaux correctionnels sont embarrassés.
Il y a une certaine facilité, finalement.
C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il ne faut pas légiférer à partir du fait divers. Oui. Tout à l'heure, je défendais la fonction du fait divers pour nous alerter.
Oui.
Je disais bien, oui, ça parle des féminicides, ça parle des violences et des maltraitances aux enfants, et ça nous permet de voir le phénomène plus général. Mais il faut passer par ce phénomène plus général, analyser, demander des rapports, nommer des commissions, comme maintenant c'est le cas avec la CIVIS, etc. Et après, à partir du travail de ces commissions, éventuellement légiférer, et la CIVIS fait des propositions justement de législation, mais pas à partir du fait divers.
Oui.
Surtout pas. Il faut passer d'abord par le temps de réflexion. Le fait divers nous amène au fait de société. Mmh. Et à partir du fait de société, on peut faire des lois. Mmh. Mais le fait divers qui fait loi, et on en a eu une époque, oui. c'est catastrophique.
Oui, il faut qu'il y en ait sur cette récupération. De temps en temps, en effet, on le voit, certains politiques, même, je dirais même pas que certains politiques, même parfois, ça fait carrément des thèmes de présidentiel. Hein,
non, mais le mot récupération déjà dit tout, en fait. Enfin, je veux dire, dans votre question, il y a déjà la réponse. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le temps de l'analyse, on n'est pas dans le temps de la compréhension, on n'est pas dans le temps du recul, on est dans le temps de la récupération. Donc on est dans l'urgence et dans une manipulation qui est une manipulation à des fins électorales ou en tout cas à des fins populistes. Et donc c'est forcément, ça n'apporte rien de bon. Mmh. Et après, j'ai l'impression que c'est quand même plus, alors c'est peut-être parce que je suis de gauche, mais j'ai l'impression que c'est plus le fait des gens de droite. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être faux ce que je dis.
À vérifier.
Je sais pas, j'ai l'impression quand même que le populisme est quand même souvent un peu... Bref.
Voilà. Une dernière chose, parce qu'on va bientôt terminer, je voudrais juste terminer par cette question aussi, Damien Delceni, est-ce que vous pensez, rapidement, que les plateformes de type Netflix, Amazon, qui traitent aujourd'hui énormément de faits divers, est-ce que ça empiète un peu, vous, sur votre métier, à vous, en tant que journaliste, qui avait ses mains dans le cambouis toute la journée sur le fait divers, est-ce que ça détourne ou ça peut le caricaturer?
Moi, j'ai pas cette perception-là. Moi, c'est une matière qui me passionne et que j'aime beaucoup et j'adore cette matière. Moi, j'ai commencé ce métier, on m'a dit mais pourquoi tu fais ça? T'es puni, qu'est-ce que t'as fait? Et j'ai dit non, mais moi, j'aime cette matière. Donc moi, que d'autres plateformes ou d'autres gens qui s'y intéressaient pas avant s'y intéressent, fondamentalement, ça me gêne pas. Au contraire, moi, je pense que plus on va après, c'est toujours pareil. Il y aura un effet de masse. Il y en a peut-être beaucoup trop aujourd'hui. On fera le tri et j'espère qu'il restera le meilleur après.
Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Damien Delceni. Merci à Andine Millot également, Franck Anaise et Élise Costa, qui étaient en duplex depuis Toulouse grâce aux moyens de France Bleu. Occitanie, une émission préparée par Constance Villanova, Aloïs Nollet, Savannah Ruelan et Mathilde Texier, réalisée par Étienne Berry. À la technique, c'était Ludovic Asselot. Ça fait du monde, mais c'est le débat de midi. C'est normal. Et nous, bien sûr, on revient demain pour le débat de midi à midi.